Donc, on a un peu de temps pour des questions, des interventions, des observations.
Tu as évoqué les difficultés du rassemblement et de la formation de la CGT. Ma question est, moi, il me semblait que les organisations, que les patrons, pas les organisations patronales, mais il y avait du côté des entreprises et du patronat également des tentatives d'organisation. Est-ce que là, on parle, est-ce qu'il y a une influence de l'un sur l'autre? Souvent, quand tu as parlé de la Fédération de la Métallurgie, je crois qu'à la même époque, au moment où c'était pas encore très organisé de ce côté-là, par contre, les patrons étaient déjà considérablement organisés. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, et qu'il y a eu une relation entre les deux, et dans le développement de l'un, le lien entre le développement de l'un et le développement de l'autre. C'est quelque chose qui va se poser et qui va apparaître comme une évidence dans les relations sociales.
Alors, il y a un fait qui est indiscutable, qui est que le patronat, au niveau national, sous une forme confédérale, comme la CGT, qui apparaît en 1895, on n'aura pas d'organisation patronale de ce type avant 1919. Et c'est à la demande du gouvernement que le patronat va créer la Confédération générale de la production française. Et d'ailleurs, il va prêter un haut fonctionnaire du ministère du Travail pour organiser la première CGPF. Il n'y a pas de volonté patronale de s'organiser au niveau confédéral. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation patronale qui préexiste. Et les historiens ont montré que, dès le XIXe siècle, et même assez tôt, il y avait beaucoup d'organisations professionnelles qui s'étaient développées dans différents secteurs économiques, y compris des cartels d'ailleurs, parce que je ne sais plus quel sociologue avait dit que les patrons français, il y a deux choses qu'ils craignaient, c'était un, les ouvriers, et deux, la concurrence. Qu'ils avaient même encore plus peur de la concurrence que des ouvriers. Donc, pour se prémunir de la concurrence, on a constitué des cartels. Mais après, il a aussi fallu se prémunir des ouvriers. Alors, il y a eu des organisations, même assez tôt dans le siècle, et y compris des formes de négociation du tarif, qui passaient pas véritablement par les chambres syndicales, mais qui passaient par les règlements d'usine. C'est-à-dire que très souvent, dans les règlements d'usine, il y avait le tarif. C'est-à-dire le tarif, c'était le prix auquel on payait l'ouvrier. Ils étaient payés à l'heure, hein, évidemment. Bon. Et qu'il y avait des formes d'entente entre les patrons, très souvent, pour voir à quel prix on payait l'ouvrier, de façon à éviter, notamment à la fin du siècle, où les employeurs ont combattu le nomadisme ouvrier. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les ouvriers se déplaçaient tout. Alors d'abord, il y avait ceux qui arrêtaient de bosser quand ils avaient leur comptant. C'est-à-dire, ils travaillaient, comme c'était payé à l'heure, ceux qui étaient célibataires, une fois qu'ils avaient de quoi payer leur petite chambre, leur pot à la taverne, eh ben, ils arrêtaient de bosser. Donc d'un jour à l'autre, le patron ne savait pas toujours qui il allait avoir au travail. Il y avait ceux qui fêtaient la Saint-Lundi aussi. Après les dimanches bien arrosés, il y en a beaucoup qui ne venaient pas le lundi. Et puis c'était des traditions. Alors là, les traditions compagnoniques, ça survivait. Alors, petite parenthèse, si vous trouvez, là je crois qu'il y est sur le site de l'UQAM, là, le livre de comment il s'appelle, Le Sublime. Je vais retrouver le nom de l'auteur. Pardon ? Non, je l'ai déjà cité, je crois. Alors, Le Sublime, c'est un patron qui écrit sur ses ouvriers et qui se plaint abondamment de l'instabilité des ouvriers et puis des hiérarchies internes qui font que parmi ceux-ci, vous avez les grandes gueules, les sublimes, l'ouvrier de métier, l'élite du monde ouvrier, qui fait ce qu'il veut, qui recrute ses propres ouvriers, qui arrête de travailler, qui dicte au patron ses conditions, etc. Enfin, lui, c'est vraiment la hantise du patron. Et en même temps, c'est l'ouvrier dont il a besoin. Parce que celui-là, il ne peut pas le changer du jour au lendemain, parce qu'il a le savoir-faire, à une époque où le geste ouvrier est quand même très important dans la production, c'est pas encore l'ère du machinisme triomphant, y a des phénomènes comme ça. Donc, il y a eu des grands efforts patronaux pour assigner les gens au travail, fixer la main d'œuvre. Et du coup, il fallait essayer d'éviter que les salaires soient trop différents d'une entreprise à l'autre dans le même métier, sinon les types, ils foutaient le camp. Dès qu'ils le savaient, ils allaient bosser le lendemain chez le patron qui payait mieux. Donc on a eu des formes d'organisation de défense économique de ce type-là. Et puis après, alors au début du XXe siècle, on commence à avoir des organisations plus sérieuses au niveau de branches professionnelles pour traiter de questions techniques, très souvent sur les machines, sur une fonction plutôt d'organisation économique à travers les chambres patronales, hein, qui se sont instituées à ce moment-là. Et puis, et c'est là que commence la grande histoire de l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, c'est-à-dire les maîtres de forge qui sont le cœur, alors le cœur d'acier même, disait un article récent, c'est un beau mot je trouve, le cœur d'acier du patronat, c'est les maîtres de forge, hein, Schlumberger, De Vindel, qui sont dès l'origine hein, sur les aciers, hein, l'aciérie, les mines, l'aciérie, etc., qui eux vont être les premiers à s'organiser. Et l'UIMM est créée en 1902. Vous savez qu'aujourd'hui elle s'appelle des métiers de la métallurgie, parce que les mines, bon, ça a un peu disparu, donc c'est l'ensemble des métiers de la métallurgie, sur cette double fonction qui était de rendre des services aux entreprises de leur champ, services économiques, services sociaux, et aussi d'être un groupe de pression, notamment après les premières lois Millerand. On voit bien la correspondance, les premières lois Millerand, c'est 1998-1900, et l'UIMM se constitue, un, pour faire pression, pour faire du lobbying sur les lois, pour éviter qu'elles ne soient votées, ou si elles arrivent jusqu'au stade du vote, pour éviter qu'elles soient votées dans des termes qui les gênent, et troisièmement, quand elles sont votées, pour apprendre aux employeurs à les contourner. C'est les trois missions de l'UIMM dans cette période-là. Elle est née pour ça et elle le fait avec un certain talent. Elle le fera d'ailleurs assez longtemps, hein, jusqu'à une période même très très récente. Et même cette EPIM là dont on a parlé, la caisse d'entraide professionnelle des industries de la métallurgie, là, qui est la caisse de grève des patrons, elle a pris ce nom d'EPIM en 1972, mais en fait, elle préexistait largement, hein, pas tout à fait à l'origine de l'UIMM, mais peu de temps après. Donc il y a des organisations patronales. Et l'UIMM, par exemple, a beaucoup réfléchi et observé, notamment dans l'entre-deux-guerres, la structuration de la CGT. Et notamment ce passage, la constitution de la Fédération de la Métallurgie, là, qui a été un débat compliqué, mais cette idée de regrouper les métiers à travers le produit. Là, j'écoutais il y a 15 jours une historienne qui nous faisait dans un séminaire, qui vient de sortir un bouquin Daniel Fraboulet sur l'UIMM, l'histoire de l'UIMM jusqu'en 1950, disait qu'elle avait trouvé dans les archives des véritables analyses de la Fédération de la Métallurgie de la CGT, qui se constituait et qui était pour eux un guide de réflexion, avec, paraît-il, d'ailleurs, beaucoup d'admiration pour ce qu'était en train de faire la Fédération de la Métallurgie, qui surprenait le patronat, cet effort de mise en forme de métiers différents pour faire une force plus grande, a inspiré aussi un certain nombre de décisions. Alors, et c'est là qu'on peut dire qu'il y a effectivement un effet miroir, hein, entre les organisations patronales et les organisations syndicales, du moins au niveau des professions. Parce qu'au niveau interprofessionnel, c'est une autre histoire, mais ça apprend à réfléchir sur la représentation patronale, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, les syndicats, les ouvriers ont besoin d'une représentation unifiée. Hein, de l'échelon confédéral, et au fond, si on regarde bien ce processus là que j'ai décrit depuis 1830, tout cet effort énorme pour constituer une confédération, c'est au fond un effort pour sortir du corporatisme originaire. Au début, le syndicalisme se constitue sur une base d'entreprise, de métier, sur une base courte, petite, étroite, locale. Et au fond, tout cet effort de construction, c'est un effort qui tend vers la sortie du décorporatisme, vers la vision globale, vers le rassemblement des forces. Et dans le monde patronal, on n'a pas du tout ce même processus agrégatif, et on a une représentation patronale qui reste disséminée dans les branches professionnelles, mais qui n'en est pas moins efficace.
Oui, je vais vous dire un mot. Là, c'est sur syndicats, la création des syndicats par les partis politiques. Donc, on a parlé de courroie de transmission. Courroie de transmission, surtout pour la CGT. Mais il me semble, et ça vient peut-être à l'origine, justement, de ce fait que les syndicats ont été créés par des partis politiques. Parce que courroie de transmission pour la CGT, c'était courroie de transmission pour tous les syndicats. Tous étaient sous tutelle, si je puis dire, d'un parti politique, parti communiste, parti socialiste ou parti de droite. Alors, hier soir, justement, la création, hier soir, ça m'a fait, tout à l'heure je pensais, je participe à une réunion de solidarité avec les travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, les Kanakis, qui ont créé leur parti avec leur syndicat. Ce sont eux qui ont créé leur parti qui s'appelle le Parti travailliste. Donc l'inverse. Alors je pense que là, justement, on peut s'en inspirer, parce que c'est un autre syndicalisme et c'est d'autres perspectives aussi. On sent un pourrissement dans le monde du syndicalisme des partis politiques. Donc, un autre syndicalisme, nous, là, en France, c'est déjà créé, je pense à l'FSU, je pense à Sud. Mais aussi, pour les partis politiques, on sent, d'ailleurs, on le voit quand on parle avec les gens dans la rue, il y a, les gens sont, ne savent plus où ils sont, ils sont complètement perdus dans toute la vie politique, la vie syndicale. Et en leur ouvrant justement ces horizons, qu'on peut créer quelque chose, alors syndicalement et politiquement.
Alors, bon, pour reprendre la dynamique historique, j'ai essayé de montrer que, justement, la France échappe un peu à ce modèle qui est celui où les partis politiques ont créé les syndicats. Dans un premier temps, c'était les partis socialistes qui ont créé les syndicats. Et dans un deuxième temps, on verra dans ces pays-là, les partis démocrates chrétiens ont créé les syndicats démocrates chrétiens. Et dans l'ère démocrate... Alors, sauf en France, il n'y a pas de démocratie chrétienne. Enfin, jusqu'à la naissance du MRP, en tout cas, en 1945-1944. Mais on a ailleurs, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, etc., on va avoir la même liaison syndicat-parti dans l'ère démocrate-chrétienne. Mais la France échappe à ce modèle. Il n'y a pas de courroie de transmission en France. Alors on va parler après, je l'ai spécifié un peu, le modèle CGT-Parti communiste, mais dans toute la période que j'ai évoquée là, et même dans l'entre-deux-guerres, et plus tard, on ne peut pas dire que les partis politiques ont contrôlé les syndicats. Il y a une bataille dans la CGTU, après-guerre, où les communistes vont exclure, ou les syndicalistes révolutionnaires, ou ceux-ci vont partir tout seuls, d'ailleurs, beaucoup. Et du coup, à partir de 1927, il y a un rapport très étroit entre le Parti communiste et la CGTU. Mais c'est le modèle qu'on montre du doigt, parce que, justement, c'est pas le modèle syndical français. Il est très différent. Et après-guerre, FO, par exemple, quand FO se crée, on sait bien que les dirigeants de FO sont encartés au Parti socialiste. Bergeron était encarté au Parti socialiste. Blondel... Mailly, je ne sais pas, mais peut-être, enfin, de toute façon, peu importe, puisque il y a quand même, malgré tout, des grandes différences. Personne ne peut dire que le Parti Socialiste est téléguidé Force Ouvrière. Et on a vu à certains moments, par exemple, notamment lorsque le Parti Socialiste s'engage dans la stratégie du programme commun de gouvernement avec la gauche, Force Ouvrière combat cette orientation-là. Il la combattra, et en 81, lorsque des ministres communistes rentrent au gouvernement, Force Ouvrière va dénoncer cet acte-là, en disant qu'on met l'Union soviétique au cœur de l'Europe. Enfin bref, il y a un très fort anticommunisme dans les fautes, qui ne s'est jamais démenti et qui, du coup, l'a mis à certains moments en opposition totale avec le Parti socialiste. C'était moins vrai dans les années 50, où effectivement, Robert Bottereau, le prédécesseur de Bergeron, déjeunait avec Guy Mollet tous les mardis matins. Bon, ça, il y avait des liaisons. Mais on ne peut pas tirer de ça, de ces liaisons-là, cette idée de la courroie de transmission. Pourquoi il y a des liaisons? D'abord parce que c'est des hommes, et que les hommes qui s'occupent, enfin les hommes et les femmes, bon, à l'époque c'est d'ailleurs un peu plus des hommes, mais il y a aussi des femmes dans le mouvement syndical. Ce sont des hommes et des femmes qui ont des opinions. Et notamment, on sait bien que dans tout ce qui est associatif, que ce soit le comité de quartier, l'association de parents d'élèves ou de locataires, les militants, c'est les gens qui sont le plus engagés politiquement. Donc on retrouve les mêmes qui ont des opinions. Mais ce n'est pas uniquement pour ça, s'agissant du mouvement syndical. C'est que, dans toute son histoire, le mouvement syndical émerge dans le politique. Le mouvement syndical a une dimension politique. Alors là, c'est un débat difficile, parce que, chez nous, le mot politique, ça veut dire trois choses que la langue anglaise distingue. Mais en France, on n'a qu'un mot. La politique, c'est dans ce sens. Dans le sens des partis, c'est la conquête du pouvoir, la lutte pour le pouvoir. Il y a un deuxième sens du mot politique qui est le régime politique. Alors, c'est le mot politique au sens grec, originaire, la cité, l'ordre de la cité. Bon. Et le troisième sens, c'est celui des politiques publiques, des politiques qui peuvent être celles des entreprises, mais qui peuvent être celles de l'État. Et on mêle un peu ces trois sens. Je crois qu'il importe de différencier. Les partis n'ont normalement rien à faire dans la conquête politique du pouvoir. Sur les deux autres acceptions du politique, là, on peut discuter. Parce que l'ordre de la cité, tout ce que j'ai montré là, c'est que le syndicalisme, pour exister, a besoin d'un régime politique qui accorde les libertés élémentaires. En France, c'est la République. Tous ceux, dans les années 30, 40, 50, ou même jusqu'en 1870-80, les syndicalistes, c'est d'abord des républicains. Avant d'être des socialistes, même. Ils sont républicains. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est la République qui apporte les droits. La première, la deuxième, la troisième. Avec retard, mais... Donc, la nature du régime politique ne peut pas indifférer les syndicats. Une preuve, s'il en faut une, juin 40, un des premiers actes du gouvernement de Vichy, c'est de dissoudre les confédérations syndicales. Prenez la carte du monde aujourd'hui, vous cherchez quel est le critère qui peut vous permettre de discerner les régimes démocratiques. Alors cherchez pas du côté du suffrage universel, toutes les dictatures, enfin pas toutes, mais une bonne partie des dictatures peuvent très bien s'en accommoder. Par contre, regardez la carte des libertés syndicales. Dans quel pays ? Liberté de la presse, liberté des syndicats. C'est ça les deux critères. Pas la peine d'en chercher d'autres. Tous les régimes autoritaires captent les syndicats et suspendent les libertés de la presse, ou suppriment les syndicats. Là où il y a liberté, là où il y a liberté démocratique, il y a liberté des syndicats. C'est donc un critère de démocratie, et c'est pour ça que les syndicats ont à voir avec la nature du régime politique. Donc l'ordre de la cité ne peut pas les laisser indifférents. Et à tous les moments de l'histoire où, en France par exemple, il y a eu des doutes sur l'évolution démocratique, je pense par exemple en février 34, lorsque les milices fascistes marchent sur l'Assemblée, etc., bon, il y a un danger fasciste, c'est les syndicats qui appellent d'abord à la contre-manifestation du 12 février. Hein, en 58, lorsqu'il y a le coup d'État du général de Gaulle, les syndicats appellent à une grève et à un défilé, à des manifestations. On peut reprendre l'exemple, pour Solidarność en Pologne, les syndicats appellent à un débrayage, etc. Alors pas tous, hein, sur la Pologne, pas tous. Là, on a un cas particulier en France, c'est celle alors, je termine quand même, sur le troisième étage du mot politique, sur les politiques publiques. Lorsque les syndicats, en 76, appellent à la grève générale contre le plan Barre, ils font de la politique, puisque c'est un plan gouvernemental. C'est le premier plan de rigueur, disons, en France, qui commence à déplacer hein, le rapport salaire-profit, etc. Ils le font au nom des intérêts matériels et moraux, des ouvriers, des travailleurs. Mais c'est un mouvement politique, évidemment. Il émerge dans le domaine de la décision politique. Donc il faut toujours voir ça de manière prudente. Que les syndicats émergent dans des dimensions où ils vont retrouver du politique. Mais ils ont d'autres fonctions que les partis. Les syndicats ne sont pas des partis. Et on retrouve bien, moi je tiens à jour ce tableau, parce que je suis un peu la vie syndicale, un peu au jour le jour, mais par exemple, il y a des sondages maintenant qui sont faits très régulièrement, des sondages sortis des urnes, après les premiers tours d'élections présidentielles, régionales, etc. Où on demande aux gens à la sortie des urnes pourquoi avez-vous voté, là pour qui avez-vous voté et pour quelle organisation vous votez aux élections sociales dans votre entreprise. Donc ça permet de voir un petit peu la. Et on voit bien, on arrive à typer les organisations. C'est-à-dire que, bon, la CFTC, la CGC, l'essentiel de leurs troupes vote à droite. D'ailleurs, la CGC, on dit que c'est le syndicat des cadres, c'est le syndicat des cadres qui vote à droite. Parce qu'alors eux, c'est 90% droite ou extrême droite. Bon. L'autre syndicat qui est le plus typé, c'est la FSU. Où là, on demande, où on voit, alors 90% des gens de la FSU qui votent pour la FSU votent à gauche. Gauche, extrême gauche, gauche de la gauche, enfin tout ce qu'on voudra, mais à gauche. C'est... Après, on est déjà, la CGT, évidemment, il y a une large dominante à gauche. Mais il y a aussi un peu de gens qui votent. Il y a 13% des gens qui ont voté Sarkozy qui disent avoir voté pour la CGT aux élections professionnelles. La CFDT, jadis, était à dominante socialiste dans les années 80. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus partagé. Hein. Droite-gauche et modem, on voit apparaître. Hein. Modem, de manière... Donc, vous voyez, on peut arriver à typer les profils des organisations. Mais attention, moi, je dis toujours, attention, ça ne veut pas dire que la FSU est un syndicat d'extrême-gauche. Ça ne veut pas dire que la CGT, etc. Hein. Les fonctions des organisations sont un peu différentes parce qu'elles émergent dans le politique à partir d'une activité sociale, d'un rapport aux travailleurs qui n'est pas celui entretenu par les partis. Donc en France, je crois qu'on ne peut pas dire, et même d'ailleurs, si on regarde bien, la notion de la courroie de transmission n'a été appliquée que à la relation entre les partis communistes et la CGT, et quand on gratte bien l'histoire, la courroie de transmission n'a pas toujours fonctionné dans le même sens. C'est-à-dire qu'au sein de cet écosystème communiste dans lequel il y avait un grand syndicat, un grand parti, des municipalités, des associations de masse, les jeunes, les femmes françaises, etc. Enfin, vous savez qu'il y avait à une époque, celle de la puissance du Parti communiste, c'était ce qu'un politologue a appelé un écosystème. Quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'écosystème, on voyageait, on retrouvait un petit peu les mêmes. Et c'est vrai que les dirigeants de la centrale syndicale étaient à la direction du parti. Mais quand on connaît, quand on discute, quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que des fois, ils étaient en position de combat à l'intérieur de la CGT. Qu'à certains moments, la CGT a imposé des choses au Parti communiste. Et très souvent, ça a été l'inverse aussi. Hein. Et qu'en tout cas, la CGT a été très entravée souvent par cette solidarité avec l'URSS, qui a été quand même le grand drame hein, de cette organisation du courant communiste en France pendant longtemps. Donc, mais il faut être prudent, hein, faut nuancer ces propos-là. Et aujourd'hui même, vous parlez de Sud, bon, prenez les Sud, qui peut dire que les syndicats sud sont sans relation avec des partis politiques, et s'ils le sont, avec lesquels? Je crois que c'est assez compliqué. Il est d'usage de dire que la LCR, par exemple, a beaucoup de liens avec Sud, que c'est eux, le cœur, etc. C'est pas si vrai, bon, même si Besancenot en est un membre le plus notoire, sans doute, mais la création des Suds, c'est beaucoup plus les courants anarcho-syndicalistes et libertaires. Que ce soit à La Poste ou à Sudrail, les courants fondateurs de Sud, et encore aujourd'hui au cœur de l'animation, ce sont les courants libertaires. Pas tout seul, avec d'autres, etc. Donc il faut. Mais ça ne veut pas dire que. Donc ils expriment des traditions, d'ailleurs, côté de certains Suds, et notamment chez les cheminots. Il y a une filiation anarcho-syndicaliste évidente, qui a une longue histoire, qui a longtemps été un peu dans la CGT et dans la CFDT, et finalement, les Suds, ce n'est que l'extériorisation de la CFDT des années 70. Ce n'est pas des formes radicalement nouvelles non plus. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils soient dehors, mais c'est des tendances syndicales qui existaient avant et qui étaient à l'intérieur de la CFDT, tout simplement. Donc moi, j'invite à appréhender avec un peu de nuance les rapports syndicats-partis. Ils ne sont pas du tout dans cet ordre-là. Les syndicats ne renoncent pas à influencer les partis de l'extérieur, plus que de l'intérieur. La CFDT a cherché à peser sur le Parti socialiste dans les années 70. Ils ont eu des rocards, etc. Mais c'était plutôt un poids créé de l'extérieur par toutes les luttes qui étaient conduites sur l'autogestion, par exemple, qui ont influencé le Parti socialiste. Le Parti socialiste a intégré, en 1976, il a adopté 15 thèses sur l'autogestion. Franchement, c'est pas Pierre Mauroy et François Mitterrand qui avaient poussé dans ce sens-là. C'est simplement parce que dans la société, dans le mouvement social, il y avait eu l'IP, il y avait eu le conflit du juin français, il y avait tout un tas de luttes sociales dans lesquelles la CFDT jouait un rôle important, et où la thématique de l'autogestion, construite en mai 68, c'était la dynamique de mai qui a porté dans le parti politique. On a d'ailleurs accusé la CFDT à l'époque de vouloir faire du néo-travaillisme, d'influer sur le programme du parti de l'extérieur. Donc, mais toutes ces formes-là doivent être appréhendées avec un peu de nuance et pas de mécanisme. C'est pas. Alors après, aujourd'hui, on vit une crise politique, bon, vous avez raison. Est-ce que c'est les syndicats qui peuvent y répondre? Il y a souvent une attente à l'égard du syndicalisme, les partis étant jugés désespérants, on se tourne vers ce qui compte, et ce qui compte encore malgré leur faiblesse. C'est encore les organisations syndicales qui ont, dans ce pays, le plus grand nombre d'adhérents, qui sont l'interface le plus important avec les salariés. Et on leur demande parfois de résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre dans la sphère du politique. Ça, je crois que c'est compliqué pour eux. En même temps, quand j'évoquais tout à l'heure la double besogne qui était au cœur de la charte d'Amiens, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le syndicalisme, il est assez peu porteur sur la deuxième besogne. Il fait ce qu'il peut sur la première, défendre les intérêts au jour le jour des salariés, mais pour ce qui est de préparer l'émancipation intégrale, ils sont moins bons, quoi. Et les grandes idéologies de référence, mais ils sont moins bons. Et en même temps, comment leur en faire le reproche? Ils ne sont pas la cause de l'effondrement des grandes espérances politiques. Ils en étaient un des moteurs, un des vecteurs, lorsqu'elles existaient, la transformation socialiste, etc. La CFDT, pendant très longtemps, a porté l'idée de l'autogestion, enfin cette idée qu'à travers l'action syndicale, on pouvait impulser des transformations sociales. Bon, aujourd'hui, elle a manifestement renoncé à ce rôle-là. Bon, ça peut être, c'est réaliste, parce qu'elle ne va pas les inventer. La CGT, c'est pareil, elle s'est longtemps appuyée sur la projection politique qu'avait le Parti communiste. Bon, aujourd'hui, elle ne projette plus grand-chose, donc elle est un petit peu livrée à elle-même là-dessus. Est-ce que les syndicats, aujourd'hui, pourraient, comme ça, et par quel geste miraculeux, sortir des projets de société qui permettraient à tout le monde de retrouver la pêche? Je crois que c'est un peu plus compliqué. Ils souffrent aussi de la crise des références politiques, les syndicats. Ils peuvent peut-être contribuer à y répondre en étant un peu plus ambitieux qu'ils ne le sont, en essayant d'abord de se rapprocher un peu, parce que la guerre de tous contre tous n'est pas très propice pour faire rêver les salariés. Enfin bref, il y a des tas de conditions pour qu'ils soient à nouveau moteurs et pour qu'ils puissent aussi peut-être peser sur une recomposition politique à gauche. Bon, là, il faudra du temps. On est dans. Mais là encore, il faut voir ça de manière assez nuancée.
Aller dans ce sens-là, dans la suite de ça, est-ce que pour vous ça a plutôt été une force justement, ou une faiblesse par rapport au syndicalisme, cette organisation spécifique en France par rapport à, enfin, vous avez dit l'histoire des mutuelles là, qu'effectivement faisait aussi que ça s'explique très bien qu'on entend dire tout le temps que les syndicats français sont moins bien représentés, tout ça, et est-ce que cette autonomie des syndicats vis-à-vis des partis politiques aurait plutôt été quelque chose comment vous voyez ça par rapport aux autres pays européens
Alors, souvent, on entend dire que le syndicalisme français est politisé, là où les autres ne seraient pas. Alors, je vous ai montré qu'à travers la liaison organique que les syndicats entretiennent ailleurs avec les partis politiques, cette idée d'une dépolitisation des syndicats ailleurs fait un peu sourire hein, quand on les connaît. Il n'y a pas si longtemps encore, le DGB faisait les campagnes électorales du SPD en Allemagne. C'est depuis qu'il ne les fait plus, d'ailleurs, que les sociodémocrates ont perdu les élections. Mais donc, il y a des rapports de ce type-là. Mais les syndicats ailleurs s'appuyaient, et s'appuient encore, sur des dispositifs sociétaux qui leur permettent de trouver des ressources ailleurs que dans la stricte activité syndicale. Les mutuelles, parfois, ce qu'on appelle le système de gants dans les pays nordiques ou en Belgique, les syndicats gèrent l'indemnisation du chômage. C'est-à-dire qu'à travers votre cotisation syndicale, vous cotisez aussi aux ACEDIC, enfin l'équivalent dans ces pays-là. Alors évidemment, si vous êtes au syndicat et que le syndicat ne vous plaît plus, vous avez encore quelques bonnes raisons d'y rester. En France, il n'y a rien de ça. Quand le syndicat ne vous plaît plus, vous foutez le camp. C'est pas lié au travail. Vous savez qu'en Angleterre, il y a des... Bon, ça reste encore. C'est évidemment, après le passage de Margaret Thatcher, il n'y en a plus beaucoup. Mais enfin, ça existe encore, ce qu'on appelle l'union shop ou le close shop. Pour travailler, il faut être syndiqué. C'est l'entreprise qui est syndiquée. Donc quand l'entreprise est syndiquée, il y a un contrat collectif et tout le monde est syndiqué. En Italie, il y a encore des systèmes aussi de close shop, un peu comme ça. Bref, il y a des nuances un peu... En France, on n'a pas grand-chose de ce type-là dans le syndicat du livre. Dans le livre, pour travailler, il fallait être syndiqué. Chez les dockers, à une époque, avant la réforme des dockers, si vous vouliez travailler, il fallait être syndiqué. C'était, tout le monde poussait des cris d'orfraie en disant « Quel système ? La CGT a un privilège inouï !» Tout le monde est obligé d'être syndiqué à la CGT pour travailler. C'est le système en Grande-Bretagne pendant très longtemps. C'est, bon, en France, on n'avait pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, les salariés n'ont pratiquement aucun intérêt matériel à être syndiqués. À l'adhésion syndicale n'est lié aucun avantage spécifique. Les syndicats n'ont pas de ressources ailleurs qu'à travers leur propre action. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, les syndicats français ont toujours tiré des ressources du politique. Et que, au fond, pourquoi les gens se syndiquaient, même s'ils n'avaient pas un intérêt direct, c'était parce qu'ils y croyaient. Tout bêtement, ils croyaient que l'engagement syndical était porteur de choses, éventuellement, sur la première besogne, mais aussi sur la deuxième besogne. C'est-à-dire que, à travers l'engagement syndical, on préparait un avenir meilleur, sinon pour soi, au moins pour ses enfants. Et c'est la rupture de ça, dans les années 80, qui provoque le grand effondrement subi, très brutal, du syndicalisme français, qui perd la moitié de ses forces en 10 ans, ce qu'aucun autre syndicalisme ne connaît. L'érosion, elle est en cours en ce moment dans les autres pays d'Europe. Elle est beaucoup plus continue, mais elle est lourde de sens sur la puissance syndicale. Aujourd'hui, tous les syndicats d'Europe sont sur le déclin. Tous les syndicats d'Europe, d'ailleurs, pratiquement, ont pris leur distance avec leur parti ami ou leur parti frère, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais ça, on en reparlera plus tard. Mais c'est une vraie rupture en Europe aujourd'hui, depuis 10 ans, de voir les syndicalismes, y compris dans les pays nordiques, couper les ponts avec le syndicat. Enfin, les syndicats, pardon, couper les ponts avec le parti politique. Alors, faut-il s'en féliciter ? J'entends beaucoup de monde, moi, dire « C'est très bien, les syndicats se coupent des partis, et c'est très bien parce que... ils sont grands, ils sont majeurs, vaccinés, ils n'ont pas besoin des béquilles, des partis, etc. » On peut le dire comme ça. Dans certains pays, c'est vrai que ça a permis des rapprochements syndicaux. Mais globalement, ça peut être aussi un raccourcissement des ambitions du syndicalisme. Parce que, par exemple, le fameux modèle suédois, c'est quoi ? C'est un ancrage très fort du parti sur le syndicat et où du syndicat sur le parti, dans ce sens-là. C'est pas le syndicat qui dictait au parti ce qu'il avait à faire. C'est le syndicat qui a imposé le programme du Parti social-démocrate pendant 50 ans. Il y a eu des grippages dans les années 80, c'est-à-dire que le Parti du Travail a pris un peu son autonomie, il y a eu des affrontements avec le syndicat, très fort sur un certain nombre de points, sur la négociation centralisée, sur leur forme d'État-providence, etc. Il y a eu des ruptures très importantes entre le parti et le syndicat, tout le monde y perd. Le syndicat milite moins pour l'élection le jour venu, Et le parti ne renvoie pas l'ascenseur au syndicat. Tout le monde y perd. Et les syndicats n'arrivent plus à embrayer, à partir de leur propre position, à imposer des positions aux partis politiques. Et donc il y a une espèce de raccourcissement du champ d'action des syndicats, alors sur le professionnel, sur la négociation, sur... mais qui, au fond, n'est pas à l'avantage du mouvement syndical. Je pense, enfin, moi, ça, c'est une opinion qui se discute. Et j'ai souvent des contradicteurs sur ce point de vue-là. Hein, donc ce n'est pas du tout... sors de mon statut de chercheur, j'ai une opinion comme tout le monde, quoi, voilà. Je pense que le raccourcissement des ambitions politiques du syndicalisme l'a plutôt coupé d'un certain nombre de ressources qu'il avait auparavant. Hein, ce qui répond à votre question, quoi. C'est-à-dire que je pense que longtemps, les syndicats ont été portés, d'une certaine manière, par la capacité qu'ils avaient de faire vivre des croyances auprès des salariés. Je me souviens d'une discussion avec un Allemand d'IG Metall de la région de Bavière qui me disait « Pour nous, très longtemps, le syndicalisme français a été un modèle. Bon, » Je dis « Ah bon, sur quoi ?» Parce que bon, on dit toujours « Les Allemands... » Ben, il me dit « Nous, c'est très simple. Hein, à BMW, quand on appelle à la grève, là, en semaine, les ouvriers, 95% ils font grève. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, on n'a pas de problème. Et puis ici, on ne fait pas trop souvent grève. Mais quand bien même on la referait, ils nous suivraient à 95%. Mais le dimanche d'après, ils vont voter pour la CSU aux élections législatives. Et ça, ça nous pose un problème, parce que la CSU, évidemment, vous savez, c'est la droite de la démocratie chrétienne, hein, c'est les femmes Kinder, hein, les 3K. Hein, bref, bon, c'est le conservatisme social. Et ils disent, il y a une espèce de on arrive évidemment à défendre les intérêts des ouvriers sur leur salaire, leurs conditions de travail, leur statut d'emploi, etc. Mais sur leurs comportements sociétaux, on n'arrive pas à agir. Or, les syndicats français, ils savent faire ça. Ils font les campagnes pour le SPD, hein. Ils font les campagnes pour le SPD quand même. Mais les mêmes ouvriers qui font grève avec le dégué, pas forcément aller voter le dimanche pour le SPD. Comment ?
Il colle une affiche SPD, il met un bulletin.
Non, ils mettent un bulletin. Non, ils ont un bulletin DGB. Ils sont adhérents du syndicat. Hein. IG Metall, c'est même plutôt la gauche du syndicalisme allemand. Mais ils peuvent très bien, sur le plan politique, ne pas faire la liaison, disons. Hein. Enfin, ce que, en d'autres temps, on disait être dépourvu d'une conscience de classe. Avoir une conscience professionnelle, oui, de voir la défense de son intérêt professionnel, mais de faire la liaison entre cet intérêt en tant qu'ouvrier et puis une vision politique, programmatique, etc. Il me disait que les syndicats allemands avaient une difficulté et ils l'ont toujours, et en fait c'est assez facile de voir que chez eux, par exemple, il n'y a pas de confédération en Allemagne. Il y a des fédérations professionnelles très puissantes, mais le DGB c'est rien du tout, hein. C'est le président, un vice-président et chacun leur secrétaire, hein. Le DGB c'est à peu près ça. Par contre, le syndicalisme s'exerce à travers des fédérations de branches très puissantes, enfin qu'il l'était en tout cas. Ils sont en train de s'affaiblir elles aussi, mais et ils n'avaient pas, ils avaient peu de. Alors, il y avait ce rapport organique au parti, mais qui finalement déléguait la fonction politique sur le parti. Le syndicat faisait la défense professionnelle, et puis après, on fait voter les gens pour le parti. Mais la question du programme politique, elle n'était pas intégrée, elle n'est pas intégrée dans la démarche syndicale. Ça commence à bouger d'ailleurs, parce que vous avez vu que la création du nouveau parti de gauche en Allemagne, qui s'appelle Die Linke, dans la partie notamment occidentale, enfin dans la RFA, dans le côté. Ancien Länder de l'Est, c'est plutôt l'ancien parti communiste qui s'est rénové, mais dans la partie occidentale, c'est en grande partie une partie du SPD, Oscar Lafontaine, et puis les syndicats, et notamment l'IG Metall qui s'est beaucoup mouillé dans la création du parti de gauche. Donc ça change aussi en Allemagne. Les syndicats commencent à prendre en charge la question politique, parce que le SPD les a lâchés. Les dernières années Schröder, c'est dramatique en Allemagne. C'est une opposition entre les grands syndicats et le chancelier qui veut faire passer son agenda 2010, les lois Hartz, etc., avec un refus du syndicat. On n'avait jamais vu ça, hein, en Allemagne. Jusqu'à présent, quand le Parti social-démocrate était au pouvoir, les syndicats soutenaient. Ils n'étaient pas toujours d'accord, mais ils soutenaient. Là, on a vu IG Metall, Verdi essayer des manifestations le samedi contre les lois Hartz. Le samedi, parce qu'ils n'ont pas le droit de grève en Allemagne contre une loi gouvernementale. Ils ne peuvent pas appeler à la grève sur une mesure gouvernementale, c'est interdit. Hein. Donc ils feront une manif le samedi. Or, en France, ça n'a jamais gêné, évidemment, les syndicats d'appeler contre le CPE, contre je ne sais quoi. Et donc, les syndicats, en France, prenaient en compte, prenaient en charge une partie du politique, sans nécessairement le déléguer sur les partis. Moi, on va se souvenir ici, je vois des gens qui ont mon âge. Dans les années 70, le mouvement syndical se battait pour une politique des transports, pour une politique de garde d'enfants, etc. À travers les unions départementales, il y avait des structures locales qui prenaient en charge les questions du transport, les questions de la garde des enfants, etc. Ça a été moteur, et ça a même imposé aux partis politiques de mentionner ça dans leur plateforme. Hein, même les partis de droite, d'ailleurs, se sentaient obligés de dire « on va construire tant de milliers de places en crèche ». C'était la façon qu'avaient les syndicats d'accompagner l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Ils étaient bien obligés d'en passer par là. Donc ils participaient, si vous voulez, d'une certaine manière, à la production d'idées politiques qui sont de programmes, qui se traduisent dans des programmes, dans des opinions, etc. Ils participent de ça. Ils participaient mieux de ça avant qu'aujourd'hui, où ils sont passablement affaiblis. Mais c'était une composante très importante du débat politique. Mais ça contribuait en même temps à leur force, parce que c'est à travers ça aussi que les gens s'engageaient dans le syndicalisme, quoi. Parce que c'était un vecteur de progrès dans différents domaines, au-delà de la feuille de paye, comme on disait parfois.
Sur l'Allemagne, là, par exemple, les liens qu'il y a, je ne sais pas si c'est qu'il y avait, si c'est au passé, entre le Parti social-démocrate et les syndicats allemands. Là, dans la Constitution, la création de cette nouvelle gauche en Allemagne, là, moi, je la vois tout à fait sous l'angle d'une véritable gauche. Il y a aussi des militants altermondialistes, tels que, par exemple, l'association ATTAC, qui est très impliquée aussi dans ce mouvement. Et il y a tous ceux qui étaient des anciens socialistes, la social-démocratie allemande, et qui croyaient donc dans ce gouvernement. Et ils sont complètement déçus, ils se retrouvent donc avec ce nouveau parti de gauche. Et il y a aussi des syndicalistes qui ont rejoint cette nouvelle gauche. Alors là, je ne sais pas, mais ça donne un espoir formidable, moi je trouve.
En tout cas, c'est un grand changement en Allemagne. Sur 5 ou 6 ans, le champ politico-syndical s'est complètement transformé. Effectivement. Alors bon, on peut le lire comme un espoir. Assurément, oui. C'est un changement qui est porteur. Vous parliez d'ATTAC. IG Metall a adhéré globalement à ATTAC. Alors bon, c'est pas pour ça qu'ATTAC a 300 000 adhérents en Allemagne. Hein, mais disons que c'est une dimension vers laquelle les syndicats se sont tournés. Et ça aussi, c'est une évolution relativement récente en Allemagne. Donc il y a une espèce de, on pourrait dire, une politisation du syndicalisme, alors au bon sens du terme, c'est-à-dire où il y a une prise en charge de questions globales dans le mouvement syndical, alors que jusque-là, le mouvement syndical avait tendance à déléguer ça à la sphère des partis. Il y a eu de grands débats dans les années 1900 là-dessus, notamment dans l'internationale syndicale. Il y avait une bataille entre la CGT et les Allemands, parce que la CGT venait avec cette idée, par exemple, de la loi des 8 heures. Ils souhaitaient, enfin non pas une loi, mais que le syndicalisme international, j'en ai pas parlé, on en parlera peut-être un jour si on a le temps, mais il y a des formes syndicales internationales au début du XXe siècle. Et d'abord, la CGT s'est battue pour l'extraire de la deuxième internationale, parce qu'il y a l'internationale des partis qui s'est reconstituée en 1889, dans laquelle se retrouvaient les partis socialistes français, le SPD allemand, etc. Donc, et les syndicats, ils naviguaient là-dedans. Donc il y a déjà une première bagarre pour autonomiser une organisation syndicale internationale. Et dans cette organisation, à partir de 1902, elle a commencé à exister. Quand la CGT arrivait avec cette idée « menons une bataille internationale pour les 8 heures », les Allemands répondaient « non, ben ça, les 8 heures, c'est le programme du parti. C'est pas notre affaire ». Pareil quand ils venaient avec la grève générale contre la guerre, où menés ensemble, ils ont proposé aux syndicats allemands de mener une action franco-allemande pour dénoncer le danger de guerre après les incidents du Maroc en 1904, qui avaient opposé la marine allemande et la France. Enfin bon, les syndicats allemands disent « nous, ça, on peut pas faire, c'est le parti ». Et la CGT, elle disait, mais attendez, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Nous, s'il faut qu'on attende les partis socialistes, on n'a pas fini. Donc, ils ont lancé, eux, tout seuls. Ils ont fait venir, d'ailleurs, quelques Allemands pour intervenir à la SADJAPI ou à la Mutualité. Mais les Allemands, eux, les syndicats allemands, n'ont jamais voulu prendre en charge quoi que ce soit, y compris la question de la guerre. Ils étaient contre la guerre, évidemment, les syndicats allemands. Mais pour eux, ce n'était pas du champ syndical. C'était le parti. Bon, alors là, c'est plutôt... vu de France, on considère que cette évolution des Allemands est positive. Hein. Eux, comment ils la vivent, ça, je...
Ben oui, c'est pour ça que ça me pensait au film qui passait la semaine dernière, où... je sais pas comment il s'appelle...
Michel.
Se plaignait de jouer un rôle d'assistante sociale, des fois. C'est parce qu'il n'y a pas de politisation. On peut être syndiqué sans politiser la chose, quoi. Moi, ça me... La frontière entre le rôle politique d'un syndicat ou un rôle, ou alors vraiment, sinon c'est assistante sociale et négociation des salaires, et c'est tout, et basta. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, les gens s'impliquent, et à mon avis, se syndiquent beaucoup moins, parce qu'ils sentent que si tu rentres dans un syndicat, il y a forcément une dimension politique. Moi, quand je demandais à des mecs de se syndiquer, et puis, ils disaient non. Parce qu'il y avait une dimension politique. Et donc, ils avaient l'impression de s'encarter quelque part. Pour... Ils ne leur demandent pas d'aller, ils vont voter où ils veulent après. Mais c'est ça, la frontière est vraiment très très limite, quoi.
Est-ce que l'image qu'on avait des syndiqués privilégiés, ayant leur. Aussi, non, un peu enfin, abuser, entre guillemets, de leur position dans l'opinion publique générale, non ? De ne pas aller justement cautionner ces gens-là, les privilégiés. Puisqu'on a justement parlé quand il y a eu l'affaire de Gauthier Sauvagnac avec ses caisses, il a tout de suite parlé des syndicats qu'il s'était fluidifié, c'est ça les... Voilà, c'était un peu ça. Parce que c'est pas ça qui fait peur les gens.
Je crois qu'ils ne l'ont pas compris. Je crois qu'ils le savent vraiment. Ça existe, hein. C'est clair.
Pour leur carrière bloquée, c'est plus fréquent que les militants syndicaux qui sont propulsés. C'est quand même plus difficile d'être militant syndical dans les entreprises. Le bénéfice, il n'est quand même pas très important.
Non, mais je ne parle pas de la réalité, mais de la perception de
l'image.
Voilà.
On voit notamment dans les entreprises Peugeot, etc., qui se font attaquer au prud'homme parce que les militants syndicaux ont eu leur carrière bloquée pendant des années. Donc c'est vrai que la fluidification, ça ne vise pas tout le monde.
Oui, justement, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'image qu'on avait, l'opinion publique.
C'est drôle que vous disiez l'image des représentants syndicales comme des privilégiés. Moi, j'ai jamais vu ni entendu que les gens avaient cette image.
Ça dépend de la taille de la boîte.
Il y en a une quantité qui se font licencier comme les autres, dans l'autorisation d'inspection du travail, mais elle est donnée, et puis basta, ils sont des enfants.
Il y en a 13 000 par an, ministère du Travail. Vous vouliez poser une question.
Mais de ça,
oui, mon expérience, elle est certainement pas représentative de ce qui se passe partout, mais moi, mes parents étaient syndicalistes, mon père est toujours, donc j'avais toujours pensé que plus tard, dès que je travaillerai, je me syndiquerai. En fait, ce que j'ai rencontré dans la plupart des boîtes où je suis passée, c'est qu'en général, les gens qui étaient syndiqués, les locales, et c'est les premiers. Actuellement, dans la boîte, par exemple, où je travaille, tous les chefs sont syndiqués, c'est les premiers à jouer les contre-maîtres auprès des salariés, à venir dire « là, tu ralentis ta cadence ». Donc, moi, j'ai une conscience politique, je ne veux pas être syndiqué. D'ailleurs, c'est ce qui me reproche, je me traite d'intérêt de gauche. Alors, comment je peux... je veux dire, j'ai pas ma place, mais par exemple, on parlait tout à l'heure du livre... À un moment donné, j'ai travaillé en imprimerie. Je leur ai posé un certain nombre de questions concernant leur programme syndical, en particulier leur politique pour défendre la condition des femmes. Parce que c'est un vrai problème en imprimerie. C'est un lieu très macho. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai jamais été à une seule réunion. Donc, je me suis dit, moi, ce n'est pas un bon endroit pour faire du syndicalisme. Donc, en fait, c'est idiot, mais actuellement, une raison pour laquelle je me rapproche d'attaque, c'est que je ne trouve pas d'espace où... vous posez un certain nombre de questions et je ne suis pas la seule dans ma boîte. On est tout un petit groupe qui ne reconnaissons pas l'un d'autre. Parce qu'on sait que si on se syndique, automatiquement on va être haché par la boîte. Et ça, c'est pas du tout la situation, par exemple, qu'ont connu mes parents qui sont sur le point de leur retraite mentale. Je travaillais dans la fonction dans le public, et moi je travaille dans le privé, je ne connaissais absolument pas ce monde-là. Et il y a une ou deux exceptions. Quoi. Et par contre, pour ces gens-là, ça va très mal. C'est des gens qui sont dans les placards, qui sont vraiment dans une situation de croire ce monde-là.
Compte tenu de l'heure, je pense qu'il y a vraiment des questions essentielles sur le sujet. Je propose d'arrêter là, et comme on peut utiliser la formule, de continuer le tour d'un verre, puisqu'on va faire ça. Peut-être quelques dates, Jean-Marie. Le mois prochain, c'est le quatrième mardi du mois. J'ai toujours...
Je n'ai plus en tête. Je
sais pas quoi.
Je Je n'ai plus en tête le quatrième mardi du mois, mais enfin, chacun doit pouvoir compter jusqu'à 4 sur un calendrier, mais on le remettra sur le site. 20 mai, voilà. Et je pense, si j'ai bien un souvenir, c'est la séance qu'on fait sur la commune. Donc là, ça sera une soirée plus festive, hein, sous une autre forme. C'est celle-là, en essayant d'ouvrir avec un film, etc. Je crois pas. Ah oui, le film de Peter Watkins. Je sais pas, non, je pense pas que ce soit ça.
Ça va être aussi associé à la commune. On peut donner les trois autres dates, histoire de vous embêter un petit peu. Le mardi, prochaine réunion d'attaque, c'est la réunion plénière. Et après, une partie que nous consacrons à l'organisation de notre association, nous avons toujours une partie débat. Et cette fois, nous allons aborder le problème, un point d'actualité qui est devenu actualité parce qu'on sait que ça n'existe pas depuis quelques jours seulement, qui est celui de la montée des prix alimentaires. Et si tout va bien, en principe, vous devriez avoir un économiste pour débattre avec nous qui s'appelle Philippe Soto, que ceux qui fréquentent régulièrement les activités d'attaque ici connaissent déjà, puisqu'il était venu quand on avait passé le très bon film sur les agrocarburants, c'était vachement bien. Donc ce sera peut-être aussi bien. Le prochain cinéma, c'est le 15, donc ça, ça se passe ici. La dernière attaque est à la Maison des Associations, 180 millions de millions. Donc le 15, on ne va pas être très loin, la thématique de soir, décidément, on a un très beau film que certains connaissent peut-être, qui est Femme précaire de Triard. Je pense en présence de l'éditeur et également d'intervenants d'attaque qui s'occupent particulièrement des questions féminines. Donc le prochain, donc la prochaine, donc c'est 4 et mardi, ça va être le 27 pour le prochain l'histoire sociale. J'ai oublié la table du cycle d'économie, je suis désolé, là je crois que c'est le 3e mardi et c'est à la maison de l'association. En ce qui concerne le café, c'est pas encore tout à fait prêt pour le mois prochain, ça va être publié la semaine prochaine. Par contre, il y a encore une dizaine de jours jusqu'à la fin du mois, et là vous trouvez le programme détaillé de ce qui se passe au café qui est organisé par la communauté d'Alima. Et enfin, pour faire du copinage, il s'arrive des soirées vachement intéressantes. Il y a nos petits copains d'attaque par 15, avec des amis du monde diplomatique, qui organisent une soirée avec Suzanne Georges. Et Suzanne Georges vient de. Qui est présidente de l'heure d'attaque, certainement pas vous savez peut-être, elle n'est pas seulement ça. Vient de publier un livre qui s'appelle La pensée enchaînée. Je pense que c'est le sous-titre. Comment les droites laïques et religieuses se sont emparées d'Amérique. On peut poser la question pour la France. Donc c'est une présentation de livre. Ça a été passé tout à fait une soirée intéressante. C'est au foyer de Grenelle, dans le 16e arrondissement. Vous avez un petit flyer ici. Dans nos activités en ce moment, on fait beaucoup de soutien aux luttes syndicales locales. On va tout mettre dans la question. Il se passe beaucoup de choses dans le secteur hospitalier, en particulier à l'hôpital Saint-Antoine. La grève est arrêtée, mais la lutte continue. Ça dure, il y a eu un mois de date, quand même assez dur. Et également des luttes dans le secteur de la santé, avec un combat très important à la maternité des Duets, qui est maintenant dans le 10e arrondissement. Il y a deux pétitions ici, vous les signez, c'est sympa. Et enfin, je donne également une petite feuille d'expression pour les gens qui ont besoin de prendre contact avec Attaque. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on rassemble...